Et bienvenue toujours dans l'Église. Alors, le thème d'aujourd'hui va tourner autour d'un mot tout simple. Le mot, c'est « aujourd'hui ». Dieu a été quelque part le Dieu du passé, puisqu'il existe depuis toute éternité. Il est bien sûr le Dieu de l'avenir, puisqu'il connaît toutes choses et il a préparé de grandes choses pour le futur. Mais cet après-midi, nous allons nous arrêter sur un mot très important, puisque Dieu est également le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mot que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, et je vous propose cet après-midi de regarder ensemble quelques textes où ce mot figure. Le premier, nous l'avons lu il y a un instant, il a été lu il y a un instant, c'est lorsque Jésus est né. Vous savez que nous allons bientôt célébrer cet événement, dans 8 jours dans les églises en général, dans 15 jours officiellement, 14 jours au calendrier. Et le premier de ces aujourd'hui donc se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Nous avons lu comment, lorsque Jésus est né, dans des circonstances bien particulières, même si on décore les maisons, si on fête de manière comme il se doit la venue de Jésus dans le monde, quand Jésus est venu dans le monde, ce jour-là, il est venu dans le plus grand dénuement, dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité, et la Bible dit qu'il est né, en fait, dans une étable. C'est pas proprement parler une maternité. Il est né non pas dans une maison, mais dans une étable, donc dans la plus grande simplicité. Et ce jour-là, d'après Luc 2, 10 à 14, un ange s'est révélé, s'est manifesté à des bergers. C'est intéressant de voir cela parce que les historiens nous racontent que à l'époque de Jésus, le métier de berger était mal vu par la société, pour différentes raisons et entre autres parce que souvent on accusait les bergers en Israël et dans les pays environnants d'aller faire brouter leurs animaux, leurs brebis, dans les champs qui ne leur appartenaient pas. Parfois, on les accusait aussi de voler des brebis quand un propriétaire de brebis ne retrouvait pas le compte exact de ses brebis. Et la suspicion se portait souvent sur les bergers. C'était un métier qui, contrairement à ce que l'on pourrait voir dans la Bible, parce que c'est un métier qui est souvent mentionné, ne serait-ce que parce que, par exemple, le roi David, avant d'être roi, était berger. Et peut-être aussi parce que Jésus dit je suis le bon berger. Mais justement, si Jésus dit je suis le bon berger, ça suppose qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas bons. Et cela confirme ce que disent les historiens. La parole de Dieu confirme que, à l'époque de Jésus, la plupart des bergers n'avaient pas bonne réputation. Mais Jésus a donc précisé en disant je suis le bon berger. Il a dit, moi je suis un berger dans lequel vous pouvez avoir confiance, duquel vous ne pouvez pas douter. Donc, l'ange se révèle à des hommes qui ne sont pas parmi les plus aimés de la société, et il leur dit cette parole au verset 11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, passons sur le fait que peut-être quand Marie et Joseph ont vu arriver ces bergers, peut-être qu'ils n'étaient pas trop heureux sur le moment, parce qu'ils voyaient donc ce groupe de gens pas trop réputés, pas trop bien réputés. Mais après, lorsqu'ils ont dit ce qu'ils avaient vu et entendu de la part de l'ange, Joseph et Marie ont dû être touchés, ce qui confirmait aux oreilles de Joseph ce qui lui avait déjà été annoncé, aux oreilles de Marie aussi, que cet enfant serait un enfant hors du commun, si je peux m'exprimer ainsi. Un enfant qui avait une mission exceptionnelle et un enfant qui se révélerait être un homme exceptionnel. Le peuple d'Israël attendait depuis longtemps l'événement de Noël. Bien sûr, il ne s'appelait pas Noël, cet événement. Pour eux, c'était la naissance de l'enfant, de l'enfant de Marie et du Saint-Esprit. Il nous est dit, lorsque Marie rend grâce à Dieu, elle rend grâce à Dieu, elle loue Dieu parce qu'il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Puis il y a les paroles de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance. » Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dit ces paroles à propos de Jésus. Donc, il y avait une grande attente, et quand Jésus est né, plusieurs ont eu la révélation que c'est aujourd'hui, ce jour-là, était un jour important, plus important que les autres. Puisque, par exemple, un autre personnage de l'époque, Siméon, qui servait dans le temple, lorsqu'il a vu le bébé Jésus, âgé de 8 jours, il a dit « Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Donc, la parole des bergers, la parole, pardon, de l'ange au berger était exacte. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Cet aujourd'hui-là est très important, parce que les Israélites, il est dit un peu plus loin que ce Jésus les libérerait de leurs péchés, ce Jésus, il est venu pour délivrer le peuple de ses péchés. Jusque-là, tous les ans, on offrait des sacrifices particuliers le jour dit des expiations, le jour donc où les péchés étaient effacés complètement, mais chaque année, donc ce jour-là, les péchés de l'année passée étaient effacés, mais dès le lendemain, la possibilité de recommettre des péchés se manifestait. Et tout au long de l'année qui suivait, ils péchaient encore, ils commettaient encore des péchés, jusqu'à la fête des expiations suivante, où les péchés étaient effacés. Mais on recommençait à en commettre pendant l'année, et ainsi de suite au fil des siècles, jusqu'au jour où Jésus a été envoyé. Et 30 ans plus tard environ, 30, 33, 35 ans plus tard, quand Jésus est mort, il a été l'agneau de Dieu, non pas l'agneau, bien sûr, l'agneau pascal, l'agneau qu'on offre à Pâques pour le pardon des péchés de toute l'année, mais il a été l'agneau de Dieu qui non seulement pardonne les péchés, mais l'a dit, l'apôtre Jean-Baptiste, pardon, a dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau pascal offert par Dieu, qui ôte, qui enlève le péché du monde, parce qu'il peut le faire, parce qu'il est tout puissant. Et sa venue dans le monde fait en sorte qu'à partir de ce jour-là, à partir du moment où le Sauveur arrive dans le monde et où quelques dizaines d'années plus tard il va être offert en sacrifice sur la croix, cela permet au péché de l'homme non plus d'être seulement effacé, mais enlevé, parce que extirpé à la racine. Pendant toute sa vie, Jésus va montrer qu'il est possible de résister au péché. Dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus, pendant sa vie sur terre, pendant notamment les 3 années de son ministère public, mais bien évidemment aussi avant, Jésus a été tenté, nous est-il dit, en toutes circonstances, en toutes choses, sans jamais céder à la tentation. Et la Bible dit que c'est parce qu'il a vécu cela, parce qu'il a été mis à l'épreuve, tenté comme nous, en toutes circonstances, bien qu'habitant dans un corps humain. Il a habité dans un corps humain comme nous. Et c'est à cause de ce corps que nous sommes tentés le plus. Eh bien, il a vécu dans un corps humain, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais comme il a su dire non à chaque fois, il peut comprendre dans un premier temps ceux qui sont tentés comme lui, et il peut aussi les aider à vaincre la tentation. Parce qu'un jour, un homme a été en mesure de résister à toutes les tentations, cela veut dire qu'on peut, dans un corps humain, résister à toutes les tentations. Jésus avait pour cela été rempli du Saint-Esprit, et chaque croyant peut être lui aussi habité et rempli par le Saint-Esprit qui lui donne la force d'être un vrai enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples au début du livre des Actes des Apôtres, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » On pourrait se poser la question, mais comment peut-on être un témoin si on n'a pas la force de vaincre le péché ? Comment peut-on être un témoin de Jésus si on n'a pas la force de vaincre le péché ? C'est pourquoi Jésus dit aussi, vous recevrez une puissance, vous recevrez littéralement une faculté, une capacité nouvelle. Et cette capacité nouvelle est ce qui a permis, dans un premier temps, à Jésus, puisqu'il avait reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême, cela a permis, dans un premier temps, à Jésus d'être capable de résister toujours au péché, et cela, aujourd'hui, nous permet, puisque nous avons reçu cette même capacité, de résister, nous aussi, à la tentation et au péché. Jésus a pu résister au péché et le vaincre parce qu'il a donné, premièrement, en toute chose, la priorité à Dieu. Il a toujours fait de Dieu l'objet principal de sa préoccupation. Il a vraiment mis en pratique le texte qui dit « Cherchez le royaume des cieux par-dessus tout et sa justice par-dessus tout et tout le reste vous sera donné en plus. » Jésus a aussi été capable de vaincre le péché parce qu'il avait fait un bon usage de la parole de Dieu, toujours. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui ont le souci principal de voir leurs prières exaucées, de voir Dieu intervenir dans leur vie chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils aiment que Dieu intervienne chaque fois qu'ils ont des problèmes pour les aider à les résoudre. Mais notre première préoccupation en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, doit être de donner à Dieu la première place. Nous ne vivons pas sur terre pour voir nos besoins être satisfaits, pour voir nos prières être exaucées, même si c'est le but de Dieu pour nous. Nous vivons sur terre pour la gloire de Dieu. Et la troisième chose pour laquelle Jésus a été capable de résister au péché, c'est parce que sa priorité, c'était de connaître Dieu. De connaître Dieu et de vivre avec lui et de marcher avec lui. L'apôtre Paul avait la même préoccupation puisqu'il disait « Mon objectif, mon but, c'est de le connaître. C'est de le connaître ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Quand Paul parle de la puissance de sa résurrection, il parle bien sûr aussi de la puissance que nous avons si nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ, de vivre dans la puissance de la résurrection qui nous permet de vivre une vie nouvelle. Alors il y a un deuxième texte, et nous l'avons lu tout à l'heure, qui nous dit également dans Luc 4, 14 à 21, c'est lors de la première visite de Jésus, devenu adulte bien sûr, et qui exerce maintenant son ministère public, Jésus fait l'un de ses premiers voyages dans le village, non pas natal, puisque son village natal c'est Bethléem, mais il retourne au début de son ministère public dans la ville où il a grandi depuis l'âge d'environ 2 ans jusqu'à sa maturité et le début de son ministère public. Donc Jésus apparaît là et il retourne donc à Nazareth, dans sa ville, dans la ville où il a grandi, dans une ville où tout le monde le connaît parce qu'à l'époque les villes n'étaient pas très grandes, la ville de Nazareth n'était pas très grande, quelques milliers de personnes maximum, et certainement qu'il s'était fait connaître dans cette ville parce que c'était un enfant qui était très obéissant. Jésus était sage. Jésus, on ne sait pas trop comment il était quand il était jeune. Est-ce qu'il avait un caractère très ouvert? Est-ce qu'il était très réservé? On ne sait rien de tout cela. Et cela n'est pas important. Jésus était forcément connu à Nazareth. Et c'est ce que nous comprenons en lisant dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, que les gens dans la synagogue étaient étonnés de l'entendre parler comme il parlait, avec autorité. Et ils ont surtout été surpris lorsqu'il a dit que la parole qu'il venait de lire, qui faisait allusion à la mission d'un envoyé de Dieu pour relever ceux qui étaient courbés, pour redonner la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui étaient opprimés, pour proclamer à ceux qui étaient prisonniers de quelque chose que ce soit, la délivrance. Quand Jésus a dit après « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », ils ont bien sûr tous pensé qu'il parlait de lui-même. Mais ils étaient surpris, et le texte parallèle dans l'évangile de Marc, chapitre 6, montre que les gens étaient incrédules en l'entendant, parce qu'ils disaient tous « Mais nous le connaissons, n'est-ce pas le fils de Marie ?» Le fils de Joseph, le charpentier. Et certains évangiles disent même que Jésus avait lui-même exercé le métier de charpentier. Et pour les gens de Nazareth, voir un homme qu'ils connaissaient, depuis sa plus tendre enfance, dire « c'est moi l'envoyé de Dieu ». Alors, les gens qui savaient que cette parole s'adressait au Messie sont restés dans l'incrédulité parce que ils pensaient connaître Jésus, parce qu'ils le connaissaient depuis longtemps. Mais quand Jésus a dit « aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie », il voulait dire tout autre chose. Aujourd'hui, quand nous lisons sa parole, nous pouvons nous rappeler que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Quand nous ouvrons sa parole, comme lorsque les Nazaréens l'ont entendu prêcher ce jour-là, quand nous lui adressons la parole dans la prière, quand nous venons à l'église pour le rencontrer avec nos frères et sœurs, il est là. Pour les Nazaréens, Jésus, le charpentier, était là, mais pas Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est parce que pendant tout le temps qu'il a parlé, qu'il s'est exprimé, et par la suite sans doute aussi, ils ne l'ont regardé que comme Jésus, le fils du charpentier qui était devenu lui-même charpentier. Ils n'ont pas voulu le voir autrement qu'avec leurs yeux humains. Ils n'ont pas voulu se rappeler que cet enfant avait quand même, que l'enfant qui était Jésus, qu'ils avaient connu tout petit, était quand même un enfant un petit peu hors du commun, qui était sage, qui était obéissant à ses parents, qui grandissait à partir de l'âge de 13 ans en étudiant la parole de Dieu assidûment. Ils n'ont pas voulu voir autre chose que ce garçon-là qu'ils avaient connu. Alors, je me pose la question, et je pose la question. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prions Dieu, lorsque nous sommes en sa présence, est-ce que nous réalisons pleinement qui il est ? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui signifie en réalité que il peut toujours intervenir dans notre vie, comme il est intervenu dans la vie, vous savez, de quelques personnes. L'évangile de Marc, je crois, dit que lorsqu'il parle de la venue de Jésus la première fois à Nazareth, après le début de son ministère public, l'évangile de Marc dit que Jésus ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité, à part le fait qu'il a guéri quelques malades. Donc cela montre bien que l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de Jésus qui est le Sauveur, l'aujourd'hui de Jésus qui vient accomplir la mission que Dieu lui a confiée, il est toujours valable. Il est toujours valable pour tous ceux qui veulent bien croire. Alors, il y a un troisième aujourd'hui. Nous n'avons pas lu le texte, mais nous ne pouvons pas lire tous les textes, que cela prendrait du temps. Vous savez que quand Jésus a terminé son ministère public, lorsqu'il a été conduit à la croix, il a été crucifié entre deux hommes. Deux, on dirait aujourd'hui, deux délinquants, deux criminels, deux malfaiteurs, comme dit la Bible, deux brigands. Tous les mots décrivent bien ces deux hommes. Et il nous est dit que d'un côté de Jésus, il y avait un malfaiteur qui protestait contre leur sort, d'un air de dire « c'est pas juste qu'on nous crucifie, c'est pas juste qu'on nous mette à mort ». Un homme donc qui visiblement ne comprenait pas la gravité de ses fautes. Mais à côté de Jésus, de l'autre côté, il y avait un homme qui a commencé à s'interroger. Vous me direz, il commençait à être temps de s'interroger. Mais bon, il vaut mieux s'interroger à la dernière minute qu'après. Et donc cet homme sur la croix, il savait que son compagnon brigand était à sa place comme lui, mais il s'est interrogé sur la présence de Jésus avec eux. Et il a pris conscience ce jour-là que Jésus n'était pas à sa place sur une croix. Il avait peut-être entendu parler de Jésus, ou alors il voyait peut-être à l'expression de Jésus qu'il était différent. Et il a eu cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Il a dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce qui laisse entendre que cet homme avait compris que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, que ce Jésus s'était dit « roi ». Et alors, peut-être qu'il ne savait pas trop encore ce que voulait dire ce royaume dont Jésus avait parlé ou dont on lui avait parlé. Et il voyait d'ailleurs, je crois tout simplement, l'inscription au-dessus de la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors il a vu cette inscription surtout. Et il a dit, Seigneur, quand tu règneras, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Et vous savez, cette parole extraordinaire que Jésus lui a répondu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dès que nous serons morts tous les deux, nous nous retrouverons au paradis. Certains vont se dire, mais c'est quand même pas juste qu'un homme qui a passé une partie de sa vie, et peut-être même pas une longue partie de sa vie, à commettre des méfaits, mais sans doute des méfaits suffisamment graves, même s'il n'en a commis qu'un seul, pour se retrouver sur une croix. À l'époque, on condamnait à la crucifixion, les Romains condamnaient à la crucifixion tous ceux qui avaient commis des méfaits graves et qui n'étaient pas Romains, puisqu'on ne crucifiait pas un citoyen romain. Donc, c'était un moyen de souffrance particulièrement dur, puisque on dit que ceux qui étaient les plus robustes pouvaient rester sur la croix et mourir qu'au bout de 48 heures. Et c'était une mort lente et particulièrement atroce. Jésus est mort plus vite parce qu'il avait aussi reçu avant 40 coups de fouet. Et il faut savoir que les 40 coups de fouet conduisaient la plupart des gens à la mort directement. Donc, Jésus est mort plus vite, mais on pouvait rester, si on n'avait pas reçu les coups de fouet avant, on pouvait rester jusqu'à 2 jours entiers sur la croix et se vider progressivement de son sang. Donc ce garçon, cet homme malfaiteur, a compris que Jésus n'était pas là à sa juste place. Il a su comprendre que Jésus était un autre homme, que Jésus avait quelque chose de plus. Et il a cru à cette parole qui était écrite, qui était une parole vraie, puisque on lui en a mis sur la croix de Jésus, Jésus roi des Juifs, Jésus de Nazareth roi des Juifs, parce que Jésus avait proclamé qu'il était le roi et qu'il viendrait un jour dans son royaume, que son royaume serait établi sur terre. La première prédication de Jésus au début de son ministère, c'était « Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Le royaume de Dieu a commencé à venir par Jésus. Il s'est installé rapidement dans le cœur de ceux qui le reconnaissaient comme roi. Et ce malfaiteur a su faire preuve d'assez de foi, dont au moment le plus terrible de sa vie, au dernier moment, pour se tourner vers Jésus. Et vous le savez, le salut, on n'est pas sauvé simplement par espérance, même si la parole de Dieu dit que le salut, il est pour maintenant, on peut l'acquérir tout de suite, et il se manifestera pleinement après. C'est pourquoi Paul dit dans une de ses lettres aux Philippiens, « Travaillez à votre salut », ce qui veut dire « Faites fructifier, faites devenir rentable votre salut, rentabilisez-le en vivant vraiment d'une vie digne de ce salut. » Cet homme donc s'est retrouvé le jour même au paradis avec Jésus, parce que Jésus est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Alors, je vais terminer par une dernière parole, toujours un aujourd'hui, qui se trouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 7. Paul, rappelant l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, son endurcissement, dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. » Comme la parole prononcée par Jésus aux oreilles du malfaiteur, du délinquant, qui comme lui allait mourir, cette parole est tout aussi solennelle, elle est tout aussi dramatique. La lettre aux Hébreux était adressée à des chrétiens d'origine hébraïque, d'origine juive, qui s'étaient laissés entraîner au découragement. La lettre aux Hébreux dit que ces hommes-là, ces chrétiens-là d'origine juive, avaient connu Dieu, avaient rencontré Jésus, avaient accepté de croire en lui, ils avaient été sauvés, ils avaient été même persécutés pour leur foi, et au cours de ces persécutions, nous dit la lettre aux Hébreux, ils s'étaient laissés retirer leurs biens, ils s'étaient laissés prendre leurs biens avec joie, parce qu'ils savaient que c'était à cause de leur foi en Jésus. Et ensuite, pour des raisons qui leur étaient propres, ils se sont découragés, et ils étaient sur le point d'oublier la foi qu'ils avaient découverte. C'est à eux, prenant l'image des Israélites dans le désert, que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. » On parle souvent dans la Bible d'endurcissement. La Bible parle souvent de ceux dont le cœur s'endurcit, soit parce qu'ils mènent une vie difficile, soit parce que Ils se sont éloignés de la vie vraie qu'ils vivaient pour Dieu avant. Et dans le cas des Hébreux auxquels la lettre est envoyée, c'était des hommes donc et des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avaient pourtant passé, qui étaient passés par une conversion réelle, un changement de vie radical, au point qu'ils avaient accepté d'être dépossédés de leurs biens par la persécution. Eh bien, ces gens-là s'étaient endurcis d'une autre manière, parce que la vie avait été dure, ils avaient concentré leurs efforts sur la lutte dans, au sein de cette persécution, et maintenant ils n'avaient plus de force, ils s'étaient découragés, ils s'étaient là, c'est peut-être que le combat avait été tellement dur qu'ils avaient perdu des forces physiques dans le combat, et que maintenant ils n'avaient plus envie de se battre. Et c'est à eux que l'apôtre qui écrit la lettre aux Hébreux leur dit, si vous entendez encore la voix de Dieu, qui vous appelle à la repentance, n'endurcissez pas votre cœur. Dans la Bible, on voit les Israélites endurcir leur cœur, notamment quand ils sont esclaves en Égypte, et qu'ils voient Moïse revenir après 40 ans dans le désert, et Moïse leur dit, Dieu vous a appelé, Dieu va vous libérer maintenant. Il est dit qu'au début, quand ils ont entendu Moïse, ils ont été contents, ils ont été heureux. Mais au fil des jours, comme le Pharaon était devenu plus sévère encore avec eux, il les faisait travailler plus dur, alors quand Moïse leur a parlé la deuxième fois, ils ne l'ont pas cru. Et la Bible dit « parce que leur cœur était endurci ». Leur cœur était endurci par la difficulté de la vie. Vous savez, la vie, notre cœur peut s'endurcir à tout moment, soit parce que nous vivons une vie difficile, soit parce que nous avons connu des moments difficiles et que nous nous sommes fatigués, soit parce que nous avons l'impression qu'il ne se passe rien de spécial dans notre vie, soit parce que quelquefois nous délaissons la lecture de la parole de Dieu, donc nous n'avons plus tellement Jésus devant nos yeux. Toutes ces choses concourent à nous laisser nous endurcir. Il y a une autre traduction de ce texte, quand il est dit « si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur », la Bible en français courant dit « ne refusez pas de comprendre ». Ne refusez pas de comprendre. Il nous faut toujours chercher à comprendre. Alors je termine par un dernier aujourd'hui. C'est peut-être le plus beau. Enfin, non, ils sont tous beaux. Mais celui-là est aussi beau que le premier. C'est dans Hébreux, toujours chapitre 13, verset 8. C'est peut-être la plus belle exhortation que l'auteur de la lettre écrit à ces chrétiens hébreux qui se décourageaient. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, pour l'éternité ». C'est peut-être le message le plus rassurant. Jésus est venu le soir de Noël. Jésus s'est manifesté dans son ministère par un autre aujourd'hui. Jésus a même tendu la main à un brigand en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon règne ». Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, ne refusez pas de comprendre. Pourquoi » Pourquoi? Parce que jusqu'au bout, Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est parce qu'il est toujours le même qu'il peut entendre notre cri, qu'il peut entendre nos prières et qu'il peut répondre à nos cris et à nos prières. Que son nom soit béni.